France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Que s'est-il passé en 2002 ? Selon qui l'on interroge, l'évocation de cette année peut appeler plusieurs réponses, heureusement. Disons tout de suite que la concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney qui va suivre, diffusée en 2002, portera sur le football. Car cette messe collective étalée sur plusieurs semaines, cette glorification du sport collectif, c'était pur, du spectacle et du divertissement, avait toute sa place en 2002, année de Coupe du Monde. Où est-elle née, cette Coupe du Monde de football? Comment a-t-elle évolué? Qu'a-t-elle entraîné, ici et là, mis à part un tourisme sportif de masse? Ah, le sport exutoire. Ah, les commentateurs sportifs. Ah, le financement des sportifs. Un peu de recul historique est nécessaire. Il l'était le 6 juillet 2002 sur France Culture, comme il doit l'être de tout temps.
Concordance des temps. Jean-Noël Jeanneney. Bonjour. Qu'on s'en chagrine ou qu'on s'en réjouisse, il nous a été littéralement impossible ces temps-ci d'échapper à la passion collective du football que les médias ont portée à l'incandescence à l'occasion de la Coupe du Monde. Naturellement, on a bien le droit de se tenir à bonne distance, quelque part entre l'ironie et l'indifférence. On peut s'amuser ou s'irriter de tant de journaux télévisés qui se sont ouverts, si je puis dire, sur la cuisse de Zidane, cette cuisse obsessionnellement évoquée, déplorée, agitée. On peut penser, en suivant Pascal, que le nez de Cléopâtre ou l'urètre de Cromwell ont tout de même eu plus d'importance historique. Oui, 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 mais au fond, ce recul est trop confortable pour qu'on ne s'en méfie pas. Le mépris n'est pas bon conseiller. Et il y a souvent beaucoup à apprendre sur nos sociétés, dans l'analyse des équilibres que le sport recherche tant bien que mal entre l'argent et le désintéressement, entre le chauvinisme et l'internationalisme, entre le mérite et la chance, entre la gloire précaire et les vertus profondes. Georges Vigarello, professeur à l'Université de Paris 5 et à l'École des hautes études en sciences sociales, va nous aider ce matin à prendre du recul en remontant aux origines de la Coupe du Monde de football dans l'entre-deux-guerres et au-delà, jusqu'à l'apparition du sport collectif comme phénomène social au XVIIIe et au XIXe siècle. Il vient de publier un livre éclairant qui s'intitule « Du jeu ancien au show ». Sportif, show, S-H-O-W naturellement. Il s'y attache, avec un mélange de sérénité et de tendresse, à ce monde spécifique du sport qui, tout en se voulant spectacle et divertissement, encore un mot pascalien, reflète, malgré qu'il en est, bien des tensions qui sont au travail sur notre planète tourmentée.
Aujourd'hui, je sens la bonne humeur courir dans mon sang, toucher mon cœur, je sens. Joueur de football, quand il fera beau temps, c'est décidé sur un stade, j'apprendrai à dribbler, je serai ton goal, mon joueur de football. Allez, shoot, 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 dans le ballon de foot, mets-leur un péno, à ces idiots, vas-y, marque des buts, un toutes les minutes. Allez, shoot, 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 dans le ballon de foot, mets-leur un péno, à ces idiots, vas-y, marque des buts. Toutes les minutes, elle avait raison. La boulangère, quand on aime un champion, il faut lui plaire. Je serai ta balle, mon joueur de football. J'ai vu des garçons, mais rassure-toi, je n'ai pas de pulsion. Pour ces gars-là, de toi, je suis folle, mon joueur de football. Allez, shoot, 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 dans le ballon de foot, mets-leur un péno. À ces idiots, vas-y, marque des buts. Toutes les minutes, allez, shoot, 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 dans le ballon de foot, mets-leur un péno, à ces idiots, vas-y, toutes les minutes. Continuons. Juste à tes pieds, je serai ta balle, mon joueur de football, pour que tu me frôles, mon joueur de football. Allez, shoot, 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 dans le ballon de foot, mets-leur un péno à ces idiots. Vas-y, marque des buts, un toutes les minutes. Shoot, 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 dans le ballon de foot, mets-leur un péno à ces idiots. Vas-y, marque des buts, un toutes les minutes.
Bonjour Vigarello, bonjour.
Bonjour.
C'était la grande Sophie qui chantait « Shoot dans le ballon de foot » en 1996. Je ne sais pas s'il faut voir dans cette chanson le signe de l'intérêt récent, tout neuf qu'on attribue au public féminin pour le football, peut-être pas au fond.
Il y a au moins un enthousiasme sautillant, vaguement enfiévré. C'est vrai de toute façon que l'attention portée par les femmes au football est relativement récente, mais il faut dire aussi que le sport a été longtemps excluant, c'est-à-dire que les femmes n'ont pas pu y participer de façon toute simple.
Convivialité masculine.
Absolument. Dominance masculine. Et je crois que les choses changent, mais il faut bien reconnaître qu'elles changent lentement.
Alors revenons d'entrée de jeu en arrière, revenons à cette date fondatrice de 1930 qui a vu l'apparition de la Coupe du Monde de football, la naissance du football comme grand spectacle. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la genèse de cette affaire-là?
Alors, je pense que la pratique du football a grandi dans l'entre-deux-guerres. Pour prendre simplement l'exemple de la France, il y a à peu près 70 000 joueurs en France affiliés à la Fédération de football en 25-26, et il y a le double dans les années 30. Donc il y a une pression en quelque sorte des joueurs. Mais il y a aussi deuxièmement une facilité plus grande du spectacle, des possibilités de déplacement qui se sont accrues. Et il y a une certaine pression que ce spectacle exerce par rapport aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques qui se veulent de grandes épreuves, encore morales, extrêmement centrées sur la volonté, la démonstration de grandes qualités, en quelque sorte, intérieures.
Les Jeux Olympiques sont apparus avant la guerre de 14, eux.
Bien entendu, ils sont apparus à la fin du 19e. Mais ils sont apparus sur un mode relativement moral. Or, je trouve que ce qui s'est produit, c'est le fait que le spectacle, le plaisir du spectacle, l'engagement pour quelque chose qui donne du plaisir, qui ne soit pas seulement engagé sur la morale, cette pression a été très forte. Et c'est la raison pour laquelle certains sports ont tenté d'organiser de grandes épreuves en dehors des Jeux Olympiques. Et l'exemple de la Coupe du Monde est sans doute le premier et le plus fort, ou parce que participent par exemple des professionnels, ce qui est impossible pour les Jeux Olympiques. Et c'est précisément pendant les Jeux de 28 qu'une sorte de petite escouade de grands responsables du sport se réunissent
et à Amsterdam
et décident d'organiser une Coupe du Monde. Jules Rimet, le grand responsable de la Fédération française, est parmi les initiateurs et il propose la création de cette coupe avec les réunions au-delà de l'Atlantique, à Montevideo, le grand pays de football déjà. Qui d'ailleurs sera, Montevideo sera le lieu de l'équipe gagnante. Ce sont les Uruguayens qui vont gagner la Coupe de 1930.
Contre l'Argentine.
Deux équipes qui se sont déjà opposées en 28 pendant les Jeux Olympiques et qui se retrouvent dans ces années 30 et qui se retrouvent sur un mode, il faut bien le reconnaître, et c'est ça qui commence à être intéressant quant à l'affrontement, sur un mode d'affrontement national fort, dans la mesure où l'Uruguay s'est séparé de l'Argentine au 19e et retrouve finalement quelque chose qui est de l'ordre de l'affrontement nationaliste.
À peu près comme si la Norvège était battue contre la Suède, ou l'Autriche contre la Hongrie après 6-6
par exemple. Et c'est là qu'on voit comment le sport recoupe finalement des données qui sont bien éloignée et pourtant très importante.
Nous y reviendrons largement. Mais puisque vous évoquez, Georges Vigarello, la personnalité de Jules Rimet, donc ce président français de la Fédération mondiale de football, qui a emporté en juin 1930 jusqu'en Uruguay le trophée de la première Coupe du Monde, une statuette en or massif destinée au vainqueur, ce n'est que justice que de lui donner la parole. Il est interrogé dans cette archive radiophonique en 1954 par Léon Zitrone, à l'occasion de la Coupe du Monde qui a repris après la Seconde Guerre mondiale.
Monsieur le Président, je voudrais que vous adressiez quelques paroles à tous les pays qui vont participer à la Coupe Jules Rimet 1954.
Eh bien, ce sera d'abord des paroles de remerciement pour avoir donné leur participation à cette très grande épreuve. Et puis, c'est aussi pour les remercier de partager avec les dirigeants de la Fédération internationale de football, de partager ce sentiment d'estime, ce sentiment d'enthousiasme, n'est-ce pas, qui les porte vers un sport qui est de toute beauté et qui a ce grand avantage d'être véritablement universel. C'est-à-dire qu'il réunit sous l'égide de la Fédération internationale et sous l'idéal du football, n'est-ce pas, de la jeunesse du monde tout entier. La Fédération internationale groupe les 83 nations, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un point du globe où on ne pratique, où on ne joue le football.
83 nations, il y en a beaucoup moins en 1930, lors de la première Coupe du Monde.
Il y a 13 nations, et l'Italie ne participe pas. La France participe avec, pour les Européens, la Yougoslavie par exemple et la Belgique. Et la France se déplace à Montevideo dans un paquebot qui prend son départ à Villefranche-sur-Mer en Méditerranée et qui va faire un long périple en engrangeant, si je peux dire, des participants au passage et en particulier les Brésiliens. Donc on voit comment, d'un côté, l'internationalisme de Jules Rimet, qui est très bien expliqué, exposé dans la phrase que l'on entend, comment cet internationalisme à la fois s'affirme et a du mal à exister dans la mesure où il ne s'agit pas de communication immédiate, il ne s'agit pas de réunir l'ensemble des participants possibles, mais en revanche, il s'agit d'affirmer la possibilité des rencontres qui dépassent les frontières. Et je crois qu'une des caractéristiques du sport, qui est évidemment tout à fait présente aujourd'hui, est celle-là.
Tout est distance dans cette aventure uruguayenne. On imagine tous ces joueurs, ces Roumains, ces Belges, ces Français, ces Brésiliens qui sont sur le même bateau.
Tout est distance à la fois dans le voyage, mais en même temps dans les reportages. Parce que les reportages qui sont proposés ne passent évidemment pas par le canal, vous en doutez bien, de l'écran ou de la radio. Ce sont des messages qui sont envoyés comme ça, quotidien, et qui arrivent sous forme de quelques lignes.
Par le fil des agences, en fait.
Voilà, par le fil des agences.
Par les radios et par les journaux.
Absolument. Et qui arrivent comme ça, sous forme de quelques lignes, au journal qui répercute et qui est le plus important, qui est le journal Loto. Or, ces quelques lignes que j'ai lues avec attention sont extrêmement froides, extrêmement pauvres. Il ne s'agit même pas de décrire des gestes, il s'agit simplement de décrire une victoire ou une défaite, d'évoquer vaguement une ambiance, sans aller au-delà. Et là encore, la distance est très sensible dans la mesure où il s'agit quasiment de cartes postales à envoyer comme dans un voyage lointain.
Vous vous relevez dans l'auto, en effet, ces quelques lignes très brèves sur un match joué par la France, 18 lignes, hier à Montevideo. La France a battu le Mexique, c'est un très joli résultat. Il y a encore du chemin à faire.
Exactement, très joli résultat, dit tout à la fois dans l'absence par rapport à aujourd'hui et dans le sentiment encore extrêmement furtif, en quelque sorte, de celui qui envoie le message.
Autre distance par rapport à l'Europe, par rapport à aujourd'hui, l'archaïsme des règles par rapport aux critères actuels. On a l'impression qu'il y a une application assez approximative du règlement. Tout ça est
oui,
en train
crois,
de prendre forme.
Oui, absolument. Je crois qu'il y a trois distances. Il y a le voyage, comme on vient de le dire. Il y a deuxièmement l'envoi des messages qui sont, comme on le dit à l'instant, extrêmement précaires. Et il y a le dispositif lui-même, qui est archaïque par rapport au nôtre, dans la mesure où le règlement international existe. Il existe depuis la fin du 19e siècle. Mais quant à son application, il existe encore des errances, le fait que des opinions d'arbitres l'emportent par rapport à d'autres. Bref, on voit à quel point l'organisation reste encore balbutiante et flottante par rapport aux repères d'aujourd'hui.
À Montevideo, certains arbitres désignent encore le point de pénalty en le calculant préalablement avec leur pas, ce qui rend évidemment les distances très, très flottantes.
Bien entendu, de même que certaines décisions sont prises de façon complètement subjective. Je pense par exemple à la durée des matchs.
Ah
certains
oui
arbitres dépassent largement les 45 minutes pour une mi-temps.
Est-ce que leur montre s'est arrêtée ou parce qu'au fond ça n'a pas d'importance?
Non, je pense pas. Je crois qu'ils n'ont pas encore intégré la précision absolument fondamentale de la mesure. Ils ont intégré la mesure, nous ne nous y trompons pas. Le sport est précisément porteur de mesures et de chiffres. Ça, ils l'ont intégré. Mais quant à sa précision absolue, telle qu'elle existe aujourd'hui, ils ne l'ont pas encore intégrée.
Cette absence de codification très stricte renvoie peut-être plus qu'à nos jours à l'archaïsme des jeux collectifs au XVIIIe siècle, en particulier les jeux de la Soule, qui sont les grands jeux de village dans l'Ancien Régime.
Oui, absolument. Les jeux se sont imposés sur une réglementation et sur une uniformisation de réglementation. Et le jeu ancien, lui, il en voit quelques caractéristiques encore un tout petit peu furtives dans la Coupe de 1930. Le jeu ancien est un jeu qui se différencie profondément selon les lieux. Par exemple, ce n'est pas le même ballon. Par exemple, ce n'est pas le même règlement. Par exemple, ce n'est pas le même nombre de joueurs, voyez-vous, qui peut changer d'une vallée à l'autre, d'une région à l'autre.
Autant que les patois, en fait. Les ballons
autant que les patois. Si bien que les rencontres, outre la difficulté du voyage, ne peuvent pas se penser dans la mesure où les jeux eux-mêmes sont trop distants les uns par rapport aux autres. Et cette uniformisation a mis beaucoup de temps pour se réaliser, y compris d'ailleurs lorsque le sport a commencé à exister, y compris lorsque les Jeux Olympiques ont commencé à exister en 1896. On sent que là, il y a une lente conquête, il y a une lente conquête de l'homogénéité.
Dans l'Ancien Régime, les ballons sont aussi divers que les petits pays.
Que les terroirs.
Vous nous dites que dans la campagne picarde, c'est une outre de cuir remplie de vent, que pour les joueurs de Condé-sur-Noireau, c'est une pelote bourrée d'étoffes fleurie de rubans, c'est une boule de buis en Flandre, ça va faire mal, ou une simple coupe de bois à Bourges ou au Mans.
Absolument. Et le règlement lui-même, c'est-à-dire que dans certains cas, il s'agit de porter une balle au-delà d'un cercle. Dans d'autres cas, il s'agit de porter une balle au-delà d'un but. Dans d'autres cas, il s'agit de mettre la balle dans un embut. Vous voyez, la diversité est considérable. Il y a une infinie de possibilités qui vont, bien entendu, infinie, qui va être totalement transformée avec l'apparition du sport, mais qui va mettre du temps à être totalement surmontée.
Et c'est cet effort de codification qui caractérise déjà l'entre-deux-guerres et qui marque finalement, disons, la première moitié de notre 20e siècle. C'est juste en 1949 qu'André Dassary chante « La marche des sports ».
Sur le ring, le boxeur inquiet se tient aux aguets, prend garde au crochet. Il esquive et bing décoche des directs du droit du gauche. Attaquant les joueurs de balle, rondeau bien ovale, descend en rafale. Tous les yeux fixent les poteaux, le but est marqué, bravo. Et voici les escrimeurs et les nageurs, les basketteurs. Par milliers ceux qui pratiquent les nobles sports athlétiques. Le sauteur qui prend son élan frissonne un instant et hop se détend. Sa nouvelle performance bat tous les records de France. Les coureurs mouvant peloton défilent et s'en vont par monts et vallons. Et le vent sur les grands chemins emporte au loin ce refrain. Chantons pour le sport, d'un cœur joyeux chantons l'essor de la jeunesse qui se moquant de la gloire vole vers la victoire. Chantons tous en cœur les performances et les vainqueurs, allons sans peur. Joyeux et fort, ivre d'effort, chantons vive le sport. Pour un match international, pour la grande finale, avant le signal, dans le stade avec passion, on parie sur ses champions. Managers, soigneurs, supporters, vibrants spectateurs chantent leurs couleurs. Les voici parmi les vivas qui font leur entrée. Coup d'envoi, le match se déroule, l'émotion saisit la foule. Plein d'espoir en ses vedettes, le sportif crie à tue-tête. La victoire hésite longtemps entre les deux camps, qui sera gagnant? C'est une lutte incertaine qui nous tient tous en haleine. Mais s'il faut qu'il y ait un vainqueur, gronde la rumeur qu'il soit le meilleur. Et des tribunes au gradin, le vent porte ce refrain. Chantons pour le sport, d'un cœur joyeux chantons l'essor de la jeunesse qui se moquant de la gloire vole vers la victoire. Chantons tous en cœur les performances et les vainqueurs, allons sans peur, joyeux et fort, ivre d'effort, chantons vive le
cette chanson d'André Dassary, 1949, Georges Vigarello, on retrouve toute une idéologie du corps, un peu de jamboree, un peu de scoutisme.
Eh bien, beaucoup de choses sont passées, en fait, on le voit à travers cette chanson, beaucoup de choses sont passées depuis le début du XXe siècle, où au fond le sport a été quasiment inventé. La première chose, me semble-t-il, et ce n'est pas du tout négligeable, c'est l'importance de la jeunesse. l'importance des nouvelles générations, le fait de s'appuyer finalement sur ce qui va venir, et le fait de transmettre quelque chose qui est de l'ordre de l'éducation. Le sport ici a un sens finalement de formation. La deuxième chose que je trouve très importante dans cette chanson, je la prends en question comme un témoin, comme un document.
C'est ce qu'il faut faire.
La deuxième chose, c'est qu'elle parle du sport comme un ensemble. Il ne s'agit pas du football, par exemple, en l'occurrence. Il s'agit du sport qui regroupe un ensemble de pratiques et qui fait finalement l'effet d'exister comme un milieu, d'exister comme un univers qui peut être transmis et qui peut être un objet, là encore, d'éducation, comme je le disais à l'instant. La troisième chose, c'est l'appel à l'effort. Je ne sais pas si aujourd'hui on dirait les choses de façon aussi tranchée. Je crois qu'on n'a plus de précautions pour renvoyer au thème de l'effort. Et on fait davantage confiance en quelque sorte aux initiatives, on fait davantage confiance peut-être au plaisir. Là, il y a encore une idéologie très forte, qui est celle de effort joyeux, mais effort au centre.
Moins de moralisme, moins de collectif.
Je crois qu'aujourd'hui, il y a moins de moralisme, oui. Même si l'appel au collectif reste relativement fort quant au sport. Et la quatrième chose, qui est une véritable conquête à la limite du sport, parce qu'elle n'existait pas au début du XXe, c'est la foule. On voit d'ailleurs quand on regarde les photos, quand on essaie de les suivre sous forme de série, les photos des épreuves, on voit insensiblement et inexorablement la foule monter. C'est véritablement un nouvel univers, non pas un nouvel univers de pratiquants, mais un nouvel univers de regardants, si je peux dire. Un peu comme si le loisir venait à s'ouvrir dans la société du XXe siècle. Et je pense que le sport est un témoin remarquable de ce genre de problème.
Les regardants, mais aussi les licenciés, parce qu'on voit au même Absolument. Moment augmenter beaucoup les joueurs qui possèdent une licence. Les chiffres que vous donnez après 1920, le nombre des licenciés du football double entre 26 et 31, passe de 75 000 à 145 000.
Bien entendu, non, il y a un double phénomène. Il y a un phénomène de pratiquants. Par exemple, aujourd'hui, les footballeurs sont près de 3 millions de pratiquants, ce qui est considérable.
Inscrits dans les
fédérations. Il y a près de 14 millions de pratiquants de sport aujourd'hui dans les fédérations.
Sport de masse.
Incontestablement, il y a un sport de masse. Donc, bien sûr, il y a une montée exponentielle, dans une certaine mesure, de la pratique, et surtout après la guerre. Donc cette chanson est intéressante, parce que
1949.
Elle est de 1949. Mais deuxièmement, il y a aussi, on ne peut pas le nier, une montée de la foule, et doublement montée de la foule. Une montée de la foule dans les stades, et une montée de la foule, évidemment, devant les écrans.
Avec cet essor d'un phénomène très nouveau, qui apparaît avec le début de la Coupe, en 1930, c'est ce qu'on peut appeler le tourisme sportif.
Ça, c'est un phénomène que je trouve effectivement très important, parce que le tourisme sportif est quasi inexistant lors des Jeux Olympiques de Athènes en 1896, les premiers. Il est relativement présent avec les Jeux de 1900, parce que ces Jeux sont associés à la grande exposition universelle parisienne. Mais en revanche, c'est bien dans l'entre-deux-guerres que commence à exister un tourisme sportif que l'on voit d'ailleurs traduit dans les pages de l'auto, puisque l'auto fait appel à des spectateurs qui veulent bien voyager. Elle offre des voyages, elle offre des possibilités en quelque sorte de s'affilier pour se déplacer, pour aller sur les épreuves. Et on peut suivre d'année en année la montée de ce tourisme. Je prendrai deux exemples rapidement. Premier exemple, la Coupe des Nations en 1930, où dans l'auto existent des appels à voyage à Genève où a lieu la Coupe en question, mais où le voyage ne se fait qu'en première classe.
Ça veut dire
que ça reste extrêmement privilégié. Et puis déjà, en 1934, pour la Coupe qui a lieu, la deuxième, qui a lieu à Rome et en Italie, on voit apparaître des séjours de durée différente. On voit apparaître des séjours qui peuvent se faire en deuxième classe. Et on voit des catégories d'hôtels proposées différentes. Ce qui montre qu'il y a une ouverture, en quelque sorte. Vous voyez, dans les années 30, on pressent déjà quelque chose qui est de l'ordre d'un loisir participatif, qui a une ouverture pour que ce public se diversifie.
Déjà à Montevideo, pourtant en 1930, on voit des milliers d'Argentins venir assister à la Coupe
Tout
du
à
Monde
fait,
et à la défaite de leur équipe. Mais il est vrai qu'il y a juste à
vous
traverser
avez
le fleuve.
Le Rio de la Plata, effectivement. Vous avez raison, c'est très important. Il y a 20 000 Argentins qui se déplacent. Et il y a des Argentins qui restent sur les quais parce que l'offre n'a pas pu répondre à la demande. Mais il n'en reste que c'est un voyage, quasi exclusivement interpays américain, si je peux dire.
Tandis qu'en 1934, effectivement, en Italie, on trouve des chiffres tout à fait remarquables. Par exemple, le match qui a lieu à Milan entre la Suisse et la Hollande, le 25 mai 1934, attire 7000 Hollandais qui sont venus par train et plus de 10 000 Suisses. Et encore à Milan, le match entre l'Italie et l'Autriche, la demi-finale, le 3 juin, attire plus de 10 000 Autrichiens. On offre non seulement le voyage, mais l'hôtel et naturellement la place
et la place,
des tickets d'entrée.
Un prix forfaitaire, absolument.
avec une démocratisation de ces voyages relatifs.
Ça, c'est tout à fait nouveau et ça me paraît très important. Et c'est important de le citer dans les années 30, parce qu'on voit bien comment chez nous existe un mythe que je comprends parfaitement, qui est le mythe de l'ouverture de la société française en 1936.
Alors ça, c'est une bonne occasion que vous me fournissez de citer celui qui va être le fameux sous-secrétaire d'État à la jeunesse et au sport du Fonds populaire, qui a laissé un nom dans l'histoire des sensibilités sportives, plus largement dans l'histoire politique, et qui a laissé son nom à une quantité de mouvements, de stades et d'écoles à travers le pays. J'ai nommé Léo Lagrange. J'ai souhaité que nous l'écoutions avec cet extrait de 1938. Il commente un match qui vient d'avoir lieu à Paris entre le club anglais, l'Arsenal, et le Racing.
Nous venons d'assister à un match admirablement joué par nos amis anglais. Les joueurs d'Arsenal, par leur rapidité, par leur sens du jeu, par leur volonté constante au cours de la partie, ont fait une magnifique exhibition de football à laquelle nos joueurs du Racing ont répondu avec beaucoup de cœur et beaucoup de courage. Partie splendide dont le résultat le plus significatif est d'avoir apporté à nos anciens combattants et à nos victimes de la guerre un peu de réconfort dans leur douleur et dans leur misère. Souhaitons que ce continue toujours aussi heureuse et aussi belle la tradition des matchs Arsenal-Racing dans un temps aussi agréable et avec une telle science du jeu et avec un tel art du football.
C'était Léo Lagrange en 1938. Georges Vigarello, il y a à la fois des propos qui apparaissent presque convenus, éternels, les commentaires, et puis c'est en même temps très daté.
Oui, c'est très daté. C'est très daté sur un aspect qui peut paraître paradoxal, mais que je trouve important. C'est la compétence que manifeste Léo Lagrange dans le commentaire. C'est un homme politique. C'est un homme politique qui regarde le football et qui le commente en donnant quasiment des indications techniques, si vous voulez, sur l'aisance, sur la facilité de certains joueurs. Autrement dit, ce n'est pas quelqu'un qui se trouve en retrait par rapport au sport, mais qui déjà intègre le sport, la pratique, le spectacle, dans sa perspective que je qualifierais de politique, si vous voulez.
Apparition d'un ministre du sport, d'ailleurs, 20
exactement.
Ans plus tôt, 10 ans plus tôt, c'eût été inconcevable.
Oui, exactement. Et je crois que ça, c'est une véritable novation. C'est un changement qui me paraît très révélateur de la pénétration du sport, en quelque sorte, dans notre univers.
Il est sportif lui-même, ce qui est important.
Il est sportif lui-même, bien
sûr. Il fait du ski.
Absolument. La deuxième chose qui me paraît très importante, qui est à la fois différente mais en même temps proche de nos repères, c'est que Léo Lagrange commente une rencontre en termes d'affrontement de nations, mais il souligne bien que cet affrontement doit conduire à de la fraternité. C'est une rencontre de nations amies. Alors, on peut d'ailleurs s'interroger. Aurait-il dit la même chose si la France avait rencontré l'Allemagne en 38? Voyez-vous, on peut s'interroger. Je crois que quand on voit les commentaires des journaux des années 30, quand on voit les commentaires des matchs, mais aussi des rencontres de cyclisme, je pense au Tour de France, on sent que le commentateur est extrêmement sensible au fait que le sport peut apporter de la convivialité. Je ne sais pas, c'est pas le mot qui était utilisé dans les années 30, mais je pense
humaine.
Que tu me fais comprendre. De la chaleur humaine, du croisement, en quelque sorte. Et qu'il peut conjurer des affrontements qui apparaissent comme, évidemment, particulièrement inquiétants.
Observez néanmoins que dans le Tour de France, il y a des équipes nationales pendant très longtemps,
exactement.
Ce qui fait partie qui contribue au plaisir des foules, alors qu'aujourd'hui, il n'y en a plus.
Et par exemple, vous voyez, un des commentaires de l'auto dans ces années 30, c'est les nations amies montent vers l'arche triomphante, qui est l'arc de triomphe et la montée des équipes sur les Champs-Élysées. Donc on voit bien là qu'il y a un problème posé par l'affrontement national qui, je crois, est à la fois de l'ordre de l'affirmation de la nation et en même temps de la tentative de conjurer quelque chose chose qui semble très menaçant et très présent.
Oui, le match comme succès d'année, comme manière de conjurer. Oui. D'ailleurs, l'allusion aux anciens combattants de la bougie de Lagrange est frappante.
Exactement. Et ça, je pense que c'est moins présent aujourd'hui, même si évidemment le nationalisme est présent. On voit très bien comment certaines nations, aujourd'hui, dans leur victoire ou dans leur défaite, dans la récente Coupe du Monde, font apparaître finalement leur position par rapport, leur situation par rapport à l'ensemble des nations. On le voit très bien. La troisième remarque qui me paraît très importante dans cette, dans ces quelques phrases dites par Léo Lagrange porte sur ce qu'il dit concernant ce que j'appellerais au fond la morale entre guillemets, c'est-à-dire le cœur, l'effort, le fait de manifester quelque chose qui est de l'ordre de la volonté consciente, me semble-t-il, ce sont ses propos. Et je crois que là, le sport reste encore quelque chose qui est, comme on le sentait dans les paroles évoquées précédemment par d'autres interlocuteurs, reste encore quelque chose de très, de fondamentalement moral, quelque chose qui doit montrer au fond une sorte de pureté, une sorte d'appartenance à des références de profondeur humaine.
Avec en même temps, à l'époque, absence d'allusion à des drogues, à des excitants.
Bien sûr, bien sûr.
Ce qui est aujourd'hui une mise en cause de la morale.
Bien entendu. Mais aujourd'hui, par exemple, ce qui me paraît très marquant, c'est que on insiste sur le rêve. Le sport nous introduit dans le rêve. Le sport est une fête. Par exemple, un ministre qui peut commenter une épreuve dit, je ne ferai pas de référence à un ministre X ou Y, facile à relever, dit, ce soir, le match sera une fête. Ce ne sont pas les propos de Léo Lagrange. Et la quatrième remarque qui me paraît importante, Léo Lagrange ne le dit pas, mais évidemment c'est très présent implicitement dans son propos, c'est que ce qui l'intéresse, ce n'est pas seulement l'épreuve sportive, Léo Lagrange. Et en cela, il a renouvelé l'implication de la puissance publique dans l'éducation. Ce qui l'intéresse, c'est incontestablement aussi tout ce qui est de l'ordre de l'éducation physique, de la gymnastique, qu'il met dans une certaine mesure au même niveau. C'est le créateur du brevet sportif populaire. Or, le brevet sportif populaire dans ces années 36, c'est tout simplement un ensemble d'épreuves qui montrent une compétence physique, mais qui ne montre pas nécessairement une grande compétence de futur champion. Donc, on ne privilégie pas encore le sport de haut niveau, comme on l'appelle aujourd'hui, mais on privilégie l'activité sportive au sens large, parce que je pense qu'il y a la prise de conscience que l'État peut aider à une entrée dans ce qui est le sport pour tous. Et je pense que nous y sommes entrés. Donc il y a moins d'insistance aujourd'hui sur le sport pour tous.
C'est d'ailleurs l'esprit de Léo Lagrange quand il crée les auberges de jeunesse.
Exactement.
Et c'était un peu l'esprit de Coubertin, me semble-t-il, à l'origine. Certes, il cherchait les grands champions, mais il y avait l'idée que participer était l'essentiel.
Oui, parce que de Coubertin avait aussi créé ce que l'on a oublié, qui me paraît très intéressant par rapport au brevet sportif populaire dont nous parlions à l'instant. Il avait créé le brevet du débrouillard.
Ah oui.
Et de Coubertin, justement, donner de l'importance à l'initiative, alors qu'il appelait par exemple ici la débrouillardise, et qui relève, je crois, le fait que le sport entre à la fin du 19e siècle dans une société qui va privilégier l'individualisme et l'affrontement.
Donc on a le sentiment, à voir se développer cette Coupe du Monde dans les années 30, qu'elle se fonde sur un double affranchissement en somme. À l'égard de l'olympisme, elle en retient certains aspects, mais elle prend quelques distances. Et aussi à l'égard, d'ailleurs, au profil de l'internationalisme, de la terre mythique du football qui était l'Angleterre.
Oui, c'est cela. Alors là, nous n'en avons pas encore parlé, mais c'est effectivement un problème important. Le sport anglais se vit, au début du 19e siècle, comme étant un lieu d'excellence et un lieu aussi exclusif qui n'a pas à être comparé aux autres, dans la mesure où, de loin, c'est le lieu où le sport, dans son excellence, se pratique. Mais ce que les autres nations montrent, c'est que finalement, le sport commence à concerner, pour des raisons qui sont à la fois économiques et qui sont sociales, commence à concerner un public très large et un ensemble de nations très large. Et ça, l'Angleterre, curieusement, ne l'accepte pas.
L'Angleterre aristocratique refuse de participer, exactement, on l'a oublié, aux tournois internationaux. Les maîtres anglais ne peuvent pas jouer avec leurs plagiaires étrangers, c'est ça l'idée.
Oui, c'est ça l'idée. Donc l'Angleterre est absente à Montevideo en 1930, elle sera encore absente à Rome en 1934, et puis, devant l'évidence d'une participation qui se fait de plus en plus large, elle devra bien participer.
Et vieille pratique anglaise, observons-la, if you can't beat them, join them, c'est ce qu'ils ont fait aussi à l'égard de l'Europe, après le marché commun.
Effectivement. Effectivement. Mais incontestablement, cette pratique de l'exclusion et de la frontière va disparaître nécessairement. Et je pense que la Coupe est un des exemples privilégiés d'un mouvement d'internationalisation auquel le sport participe. Je crois que ça, vraiment, c'est une caractéristique forte de nos sociétés du XXe siècle.
Le sport se veut pratique universelle.
Absolument.
C'est un indice, au fond, du changement des relations internationales elles-mêmes.
Exactement. C'est un indice du changement des relations internationales, mais en même temps, c'est un indice de changement d'une relative uniformisation des valeurs. Et ça, je crois que nous l'oublions. Alors, il y a des pratiques comme ça qui en ont précédé d'autres, et il me semble que le sport en fait partie.
Il demeure qu'au même moment, tout en prêchant la défense et l'illustration de l'internationalisme, on voit aussi ce football des années 30 marquer les affirmations nationales, marquer des explosions de nationalisme, pour ne pas dire de chauvinisme, sur laquelle on ne peut pas ne pas s'attarder un instant, Georges Vigarello, surtout par rapprochement avec nos passions d'aujourd'hui.
Bien entendu, c'est le paradoxe du sport. Le sport, par sa présence, par le plaisir qu'il procure, par l'investissement de participants, mais aussi l'investissement de flux les plus variés, en particulier de flux financiers, le sport reflète nos sociétés, reflète les contradictions de nos sociétés. Et comme il est un facteur intense d'identification, il va refléter, comme on l'a d'ailleurs laissé entendre tout à l'heure, il va refléter des nationalismes et donc des affrontements nationaux.
Revenons à Montevideo en 1930, entre Argentine et Uruguay, la passion se déploie. Argentina si, Uruguay no, ce sont les banderoles que les Argentins venus assister à la Coupe déploient largement. Et il y a des violences d'ailleurs au retour à Buenos Aires.
Alors c'est ça, il se déroule même un épisode dont on n'a pas d'ailleurs toutes les données, toutes les indications. Un épisode à Buenos Aires au retour, donc l'Argentine a perdu. Un drapeau uruguayen est brandi à une fenêtre de Buenos Aires et un affrontement a lieu avec des morts, mais jamais une enquête n'a permis de dire combien de morts ont été à déplorer. Jamais une enquête n'a permis de dire comment les faits se sont effectivement déroulés. Ce qui amène à un double constat. Premier constat, il y a, ne l'oublions jamais, une certaine tolérance à la violence qui aujourd'hui continue d'exister mais qui me semble moindre. Premier constat. Deuxième constat, le nationalisme peut aboutir à des faits gravissimes.
La tolérance,
à travers le sport.
La tolérance est moindre. Vous pensez aujourd'hui, dès l'époque, on se soucie quand même énormément de troubles possibles, d'affrontements possibles, et on fouille les spectateurs à l'entrée du stade de Buenos Aires, et on est obligé d'entourer l'arbitre, qui est un Belge,
exactement,
de 12 gardes personnels pour le protéger contre les passions collectives.
Non, bien sûr, bien sûr. Et le stade est pensé pour éviter des mouvements de foule trop dangereux. Il y a une architecture extrêmement compliquée. Il faut que les flux puissent circuler à l'intérieur du stade. Donc il y a une préoccupation, bien entendu, à l'égard de la foule et à l'égard de la violence possible. Simplement, ce que je veux dire, c'est que des faits se sont produits d'une gravité extrême qui n'ont pas entraîné d'enquête. Il me semble que la chose ne serait plus possible, je dis ça avec prudence, bien sûr, ne serait plus possible aujourd'hui.
Le stade s'appelait stade du centenaire.
Du centenaire.
Ce qui évoquait la séparation de l'Argentine et de l'Uruguay, précisément un siècle plus tôt, en 1830.
Un siècle plus tôt, ce qui a entraîné, me semble-t-il, l'avivement des raisons pour lesquelles l'affrontement avait du sens et représentait un certain danger. On le voit d'ailleurs dans ces épreuves du début du siècle. On le voit dans d'autres lieux. Je pense par exemple à une rencontre dans les Jeux Olympiques 1900 rencontre de football entre l'Allemagne et la France.
1900.
Déjà. Aux Jeux de Paris. Et on le voit comment les organisateurs ont dû prévenir les affrontements possibles, comment ils les ont craints, et comment finalement, en permanence, les spectateurs pouvaient basculer dans une violence relativement ouverte.
4 ans après Montevideo, 1934, Rome, le climat s'est beaucoup alourdi dans la relation internationale, et cette Coupe du Monde est marquée par l'émergence beaucoup plus évidente des passions nationales. L'équipe italienne pénètre sur le terrain en effectuant le salut fasciste. L'équipe allemande affiche deux drapeaux, l'un frappé aux couleurs nationales, l'autre qui est marron avec la croix gammée. C'est un vrai uniforme que portent les officiels et joueurs allemands. D'entrée de jeu, le ton est donné.
Oui, c'est à travers cet exemple que l'on voit à quel point la politique peut pénétrer l'espace du sport. Et cette politique y pénètre d'autant plus que le sport se rend visible et se rend l'objet d'un certain nombre d'enjeux dans lesquels le public s'investit intensément. J'ajouterai simplement une chose qui est extrêmement parlante, c'est que le président de la Fédération internationale de football amateur, qui en 1934 était encore Jules Rimet, le président a dit « J'ai pensé à plusieurs reprises que le président de la Fédération internationale était tout simplement Mussolini ».
C'est en vain qu'on s'efforce d'affirmer, dans ces années-là encore, l'universalité du sport. Elle a de la peine à résister à cette montée des passions nationales. Écoutons Fred Gouin. En 1930.
Amant de la petite reine qui file comme un trait d'acier, boxeurs agiles dont la reine, grimpeur du roc et du glacier, aviateur fier dont l'audace à des coups d'aile triomphants, vous êtes la fleur de la race et les meilleurs de ses enfants. Le sport rayonne dans le monde, c'est lui qui rend solide et fort tout autour de la terre blonde, exalte son joyeux effort. Et narguant le passé qui gronde, la peur, la vieillesse et la mort, amis, chantons tous à la ronde, vive le sport, vive le sport. La piste et de la route, os du rugby, os du volant, vos yeux clairs méprisent le doute, vos muscles ont le même élan. Quand vous tendez vos bras, vos torses, pour le clou-clou, pour la cité, vous êtes les vibrantes forces qui ressuscitent la beauté. Le sport rayonne dans le monde, c'est lui qui rend solide et fort tout autour de la terre blonde, exaltons son joyeux effort. Et larguant le passé qui gronde, la peur, la vieillesse et la mort, amis, chantons tous à la ronde, vive le sport, vive le sport.
Il est assez ambigu, Georges Vigarello, ce chant du sport de 1930. On y entend à la fois que le sport rayonne dans le monde, c'est lui qui rend solide et fort, soit, mais en même temps, vous êtes la fleur de la race et les meilleurs de ses enfants.
Ambiguïté évidente. Et on voit bien toute la différence qu'il y a d'ailleurs entre cette chanson et celle que nous écoutions tout à l'heure et qui date de l'après-guerre, de l'après-deuxième guerre mondiale. Ces mots-là n'existaient pas évidemment dans les paroles de Dasari, ils existent dans les paroles de ce chanteur. Et je crois que on oublie toujours à quel point la présence de la référence à la race est forte au XIXe siècle et est forte encore au début du XXe siècle. Et le sport a côtoyé, et ça c'est absolument indéniable, a côtoyé la tentation de le faire exister comme un élément participant à ce que certaines références des années 30 appelaient les races fortes. Évidemment, là, une fois encore, on voit comment... C'est ça moi, qui me paraît à la fois important et par certains côtés dangereux. On voit comment le sport peut être saisi par des forces qui sont extérieures à lui. Comment il peut se laisser imprégner, finalement, par des élans collectifs. Et je pense que c'est effectivement une de ses faiblesses.
Résultat, les arbitrages en Italie, en 1934, sont marqués par une évidente partialité. On entend le général Vaccaro, président de la Fédération italienne de football, déclarer haut et fort que le but ultime de la manifestation doit être de montrer ce qu'est l'idéal fasciste du sport.
Alors, ça s'est produit en 1934 lors de cette coupe, appelons-la mussolinienne, si on peut dire les choses ainsi.
L'Italie gagne finalement d'ailleurs, mais de façon douteuse.
Bien sûr, puisque au fond, il y a une pression considérable. Alors, vous savez, ce qu'il faut dire, c'est qu'une équipe qui se bat devant son public est une équipe avantagée. parce qu'elle est très profondément soutenue, et ce soutien a un effet à la fois contre l'adversaire et en faveur de l'équipe en question. Donc, c'est d'ailleurs ce qui plaît finalement au public, c'est de sentir qu'il peut influencer ses joueurs. Et c'est en ça qu'il y a de l'investissement intéressant et important sur le sport.
Donc, Identification.
Je ferme ma parenthèse, il ne faut jamais oublier cela. Mais à l'évidence aussi, et on le voit bien dans le cadre de la Coupe 34, à l'évidence, certaines tensions favorisant les organisateurs, venant des arbitres, venant du climat, venant de la façon dont certains joueurs sont tolérés quant à leur violence ou pas.
Le fameux Monty
qui a le droit de lancer de grands coups à droite et à gauche, qui de surcroît n'avait pas théoriquement à figurer avec l'Italie parce qu'il avait déjà figuré dans l'équipe argentine. C'était un argentino-italien, si je peux dire.
Quatre Argentins qui sont sous les couleurs italiennes.
Argentine en 1930. Donc ce fameux Monty se permet des violences absolument hallucinantes qui seraient complètement invraisemblables aujourd'hui. Parce que c'est quelqu'un qui véritablement était réputé pour... tout simplement casser les jambes des adversaires.
Il tapait rarement dans la balle, en somme.
Rarement dans la balle. Il visait autre chose. Eh bien, ce Monty a été toléré et a été un des facteurs de victoire de l'Italie. Là encore, vous voyez, c'est très important de sentir à quel point, à la fois, le sport peut être imprégné, comme je le disais à l'instant, par des puissances qui le dépassent, mais à quel point aussi, quand même, ce type de pratique a été relativement surmonté aujourd'hui. Je dis bien relativement.
Les comportements des années 30 renvoient plutôt, là encore, aux habitudes de l'Ancien Régime, avec la soule et ses empoignées, qui étaient déjà une sorte d'exutoire cyclique des conflits de terroirs, des rivalités entre les villes, la campagne.
Alors, bien entendu, je pense que ça permettra de dire, d'ailleurs, d'essayer de nous interroger quelques instants sur quelle est une des caractéristiques fortes du sport. Cette caractéristique, elle passe, comme vous le disiez à l'instant, par les pratiques anciennes. Les pratiques anciennes avaient pour plaisir premier de provoquer, au fond, de l'excitation, de l'effervescence et de la violence, et de donner place à cette violence que le quotidien ne rend pas possible ou que le quotidien a tendance à cantonner. Donc il y a des lieux dans la société ancienne, ces grands jeux en sont l'exemple, il y a des lieux où la violence peut s'exprimer. Et le travail, me semble-t-il, d'une société comme la nôtre, de la société occidentale, le travail va être de cantonner progressivement cette violence.
Canaliser.
De la canaliser pour qu'elle ait moins de place et pour que elle ne soit pas véritablement destructrice et qu'elle puisse être convertie en autre chose, voyez-vous. Alors, qu'est-ce qui s'est exactement produit? Il s'est produit le fait que d'un côté, cette violence a été effectivement canalisée par des règlements, par des interdits, par des condamnations. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer l'apparition du sport, avec un règlement de plus en plus aigu, de plus en plus reconnu, de plus en plus écrit, mais d'un autre côté, bien entendu, il faut que la transgression demeure possible. Il faut qu'une certaine effervescence demeure possible. Et je crois que le sport actuel balance, si je peux dire, si je peux utiliser cette image, le sport actuel balance entre ces deux pôles. Et c'est ce qui en fait à la fois son côté totalement excitant et son côté inévitablement dangereux et inquiétant.
Et frustrant. C'est un exutoire.
Voilà.
Et en même temps, la civilisation à qui on demande de pénétrer sur les stades est obligée de ne pas être trop présente parce qu'il faut maintenir néanmoins cette violence, à la fois,
une limite absolument inévitable. Il faut une limite parce que c'est une limite qui est constructrice. C'est une limite qui est facteur de culture. C'est une limite qui est facteur de socialisation. Donc, il faut une limite absolument incontournable, parfaitement affirmée et claire. Et en même temps, il faut bien qu'un certain nombre de tensions collective, aussi bien d'ailleurs individuelle, puisse avoir lieu et puisse exister.
Ces années 30 et 40 sont intéressantes à cet égard parce qu'elles sont le moment où cet équilibre, tant bien que mal, s'établit, même s'il n'est jamais acquis. Il me semble que dans les périodes récentes, la violence nationale ou nationaliste a réémergé.
Il n'est jamais acquis.
Avec l'Algérie, dans le match fameux il y a quelques temps.
Évidemment, il n'est jamais acquis. Et alors, il y a un double problème que j'essaie d'aborder d'ailleurs dans le livre que nous évoquions. Il y a un double problème. Il y a une violence qui est celle des spectateurs, ce que j'appelle les deux pôles de la violence. Il y a la violence des spectateurs, de ceux qui regardent, et qui, dans le football, sont des spectateurs fortement engagés physiquement. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est difficile à expliquer, mais j'ai l'impression que le football, qui est un jeu où la main n'intervient pas, où l'affrontement ressemble dans une certaine mesure à une forme de guerre ou de bataille, où l'engagement physique est fort des joueurs. Il me semble que cela entraîne de la part des spectateurs une sorte d'investissement physique fort également.
Parce qu'il est plus bridé, vous voulez dire, par exemple, que rugby ou que d'autres sports ?
Oui, parce qu'à la fois, il est plus ouvert et en même temps, il est plus bridé, puisque la main ne peut pas jouer. Il y a une sorte de contraste. Et en même temps, il y a la mise en affrontement de deux équipes qui se déploient comme des armées en bataille et qui déploient de façon extrêmement visible leur affrontement. Vous voyez, on voit très clairement comment se disposent les joueurs les uns par rapport aux autres, comment une équipe se trouve dans une situation par rapport à une autre. Ça me paraît très marquant, beaucoup plus marquant que dans d'autres sports. Je ne veux pas citer d'autres sports, mais c'est beaucoup plus marquant. Et je crois que ça engage, de la part des spectateurs, une sorte d'investissement physique. Et puis, le succès du football fait que les spectateurs se sentent beaucoup plus engagés qu'ailleurs. Le succès fait aussi que les spectateurs se sentent vus par des caméras ou par d'autres, vous voyez. Donc le spectateur a une présence intense, me semble-t-il, dans le football. Ça, c'est le premier risque de violence. Et puis deuxièmement, il y a le footballeur lui-même, il y a le joueur lui-même, qui face aux enjeux, face au style de jeu, face au style d'affrontement, est appelé à un certain type de violence.
Il y a encore des Monti, comme cet Italien qui ne jouait pas le jeu, qui aimait les coups en douce.
Exactement comme il existe des bandits masqués, je dirais il y a des Monti masqués dans le jeu.
Une autre donnée majeure sur laquelle nous allons terminer, Georges Vigarello, c'est l'apparition dans ces années-là du rôle des médias, le triomphe du spectacle.
Pour la première fois depuis la création du foot, depuis 1930, depuis la création donc de cette merveilleuse épreuve, eh bien l'équipe de France va être championne du monde de football. Du Gary qui part balle au pied, qui va donner à un de ses coéquipiers. Voilà, c'est fait. Il donne le ballon à destination d'Emmanuel Petit qui marque. Voilà, Emmanuel Petit qui marque. L'équipe de France qui est championne du monde. C'est officiel.
Cette voix, vous l'avez sûrement reconnue si vous êtes fidèle de Radio France, c'est celle de Jacques Vendroux en 1998, soulignant sans sang-froid la victoire de l'équipe de France.
Le moins que l'on puisse dire, effectivement, c'est que non seulement le public est engagé, mais le commentateur l'est aussi. Et il l'est jusqu'à en perdre sa voix, ce qui prouve bien l'importance de l'épreuve. Mais je crois qu'il faut revenir un petit peu en arrière, parce qu'effectivement, les Coupes du Monde, les premières, non celles de 1930, mais celles de 1934, est la première coupe où sont introduits les médias au sens moderne du terme dans le dispositif de l'évocation de cette épreuve, puisque des radios sont accrédités par l'Italie et doivent financer cette accréditation.
Ah, c'est très actuel aussi.
C'est très actuel.
Et doivent financer. C'est la bataille du président Cavada, du président de Radio France, pour obtenir que les autres radios puissent, comme RMC, être sur les stades.
C'est une
bataille de toujours.
Oui, qui ressemble en tout cas à celle d'aujourd'hui, comme vous le dites très bien. Donc, qui s'affrontent au fond pour obtenir l'exclusivité et qui tentent de capter un public large de façon à retrouver la mise qu'ils ont placée. Je dois dire très vite que dans ces années 34, le résultat est relativement pauvre et que finalement les diffusions se révèlent assez peu importantes et dans une certaine mesure, le dispositif frôle l'échec.
Même dans lors du fameux Jeux Olympiques de 1936 qui voit les jeux du stade au service de la propagande hitlérienne.
Alors, en 36, je pense que la situation a déjà évolué. Mais n'oublions pas que le film Les Dieux du Stade est un film. Ce n'est pas un documentaire.
Le film de Leni Riefenstahl.
Voilà. Le film célèbre est un documentaire poste. Ce n'est pas un compte-rendu d'épreuves tel que peut le connaître aujourd'hui la télévision.
Il y avait les actualités cinématographiques, mais il n'y avait pas la fascination du direct.
Il y avait les actualités cinématographiques. Or, la fascination du direct est fondamentale. Elle est fondamentale parce que je crois que elle nous renvoie à une caractéristique première du sport quant à sa retransmission. C'est qu'il nous met face à quelque chose qui est de l'ordre d'un drame qui se vit devant nous et dont nous ne connaissons pas l'issue. Et je crois que c'est en cela que la retransmission est excitante et est importante. Mais elle suppose une technique très importante, très élaborée. Elle suppose que le commentateur connaisse parfaitement bien les joueurs et, quant à la radio, sache retraduire le vécu, en quelque sorte, de l'épreuve. Alors, vous savez que c'est aussi dans le Tour de France que, dans les années 30, apparaît la radio et apparaissent des commentateurs célèbres. Je pense à Georges Briquet.
Celui qu'on appelait Papy.
Celui qu'on appelait le Papy, absolument. Et je crois que Georges Briquet était plus brillant comme commentateur que l'ont été les commentateurs de football. Mais incontestablement, le système est installé et il va s'affirmer d'une façon absolument incontournable dans l'après-guerre.
Observons que dès sa naissance, la radio a été gourmande de cette possibilité de rendre compte quasi immédiatement des événements. Ça a commencé avec un match fameux de Georges Carpentier, le boxeur, dans les années 30, où quelqu'un au bord du ring envoyait par fil, il s'agissait d'un match qui se passait aux États-Unis, envoyait par fil à Paris un reportage qui était en ce moment décrypté et récité en quelque sorte avec un léger décalage.
Absolument, c'est là qu'on voit l'importance de l'immédiat.
Le parleur inconnu était dehors terre, était fameux dans cet exercice.
Oui. C'est là qu'on voit l'importance de l'immédiat. Vous voyez, le sport permet, le sport nous fait entrer, et en même temps qu'il la symbolise, nous fait entrer dans une société de l'information et dans une société de l'événement. Je trouve qu'il la symbolise aussi, dans la mesure où il y a toujours un événement sportif nouveau à apporter. Et évidemment, par là même, le média joue un rôle tout à fait décisif.
Qui dit média dit argent. Est-ce que dans ces années 30, on voit déjà le football trouver sa logique marchande ?
Incontestablement. Mais c'est une logique marchande qui reste relativement locale. Par exemple, les équipes de clubs de football en France sont financées par ce que j'appellerais des dirigeants de petites et moyennes industries, telles qu'on pourrait les appeler aujourd'hui.
Ceux qu'on retrouve aussi aujourd'hui comme président de club, où ils sont plus petits, plutôt PME que grosses entreprises. Beaucoup d'industriels aujourd'hui
ont le
goût de diriger des clubs.
Mais le problème, c'est que aujourd'hui, le football est repris dans une mécanique qui passe par l'image. Et qui fait que les investissements sur les joueurs, les investissements sur le club sont sans commune mesure avec ce qu'ils étaient jusque-là. Dans les années 30, ce sont des dirigeants d'entreprises visibles sur une ville qui prennent en charge l'équipe. Ce qui a pour double effet l'investissement sur la ville et l'investissement sur l'entreprise.
Est-ce que la gloire des joueurs se traduit pour eux déjà en espèces sonnantes et trébuchantes ?
C'est sans commune mesure avec ce qui se fait aujourd'hui, y compris dans le cyclisme, sans commune mesure. Je n'ai pas le sentiment, alors évidemment il ne s'agit pas de fortune, je crois que c'est uniquement, ce mot peut être employé uniquement pour les années 60 et après, et encore, avec nuance. Et on le voit aussi pour le cyclisme. Par exemple, les grands coureurs, je pense à Le Duc, qui a gagné deux fois le Tour de France.
Pélissier,
Le Duc a été en mesure d'acheter un bar. Vous voyez, il a gagné le Tour de France en 30 et en 32. Il a été en mesure d'acheter un bar qu'il a fait ensuite fructifier pendant ces années 30.
Gemignani aussi à Clermont-Ferrand.
Exactement. Mais on voit bien que ce sont des gains qui restent mesurés, discrets, qui s'inscrivent dans un espace de petite bourgeoisie, si je peux dire, ou de moyenne bourgeoisie.
D'autant
alors que les gains
encore,
d'aujourd'hui sont tout à fait différents.
Il y a encore une dialectique beaucoup plus présente entre l'ambition du sport amateur et le sport professionnel. C'est l'époque aussi où Jules Ladoumègue, le fameux champion de l'athlétisme français, a sa carrière brisée pour une raison qui nous apparaîtrait absolument dérisoire. Il a accepté de se faire payer un ticket de train pour aller au Havre.
Absolument. On voit comment d'ailleurs c'est très difficile de sortir de cette perspective selon laquelle il faut payer quelqu'un pour faire preuve de force et pour manifester finalement un gain corporel dans l'abstrait, sans que ce gain ait une efficacité ouvrière immédiate. C'est très difficile de se déprendre de ce repère. C'est pour ça que l'olympisme a pu pendant si longtemps s'arrimer à ce prestige de l'amateurisme.
C'est aussi en quoi vous confirmez pour finir que le sport est un miroir des évolutions sociales, collectives, des évolutions technologiques, certes, mais aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation, qui se traduit forcément, d'un point de vue financier, de façon très violente.
Il manifeste remarquablement ce problème de la mondialisation. Je prendrai un simple exemple. C'est le fait que les propriétaires d'équipes parviennent à recruter des joueurs sur tous les continents, et en même temps parviennent à, dans certains cas, à empêcher ces joueurs de retourner dans leur propre sélection nationale. Donc on voit comment un flux d'argent qui dépasse finalement la nation interdit dans une certaine mesure l'utilisation par la nation en question du joueur le plus prestigieux.
Eh bien, ce sera notre dernier mot, Georges Bigarello. Je vous remercie. Je rappelle le titre du livre sur lequel nous avons fondé principalement cette émission, « Du jeu ancien au show sportif ». La naissance d'un mythe, paru tout récemment aux éditions du Seuil. Vous avez précédemment donné un ouvrage très riche qui s'appelle « Passion sport », fort bien illustré de surcroît. « Passion sport, histoire d'une culture », textuel 2000. Et puis je veux rendre hommage à un autre ouvrage qui vient à peine de sortir, qui est celui de Pascal Boniface, « La terre est ronde comme un ballon », géopolitique du football. Je crois que vous appréciez cet ouvrage.
Superbe livre, je trouve, effectivement. Informé, ayant des chiffres et ayant surtout une analyse extrêmement percutante de la mondialisation.
Le livre est paru au Seuil en 2002.
On se retrouvait pour tacter cuir. Pas de supporters dans les vestiaires. Match amical pour le plaisir.
On était une bande d'amateurs. On jouait au football le samedi. On y mettait tout notre cœur. Notre modèle c'était.
C'était Concordance des temps. Jean-Noël Jeannet. Avec Agnès Chauveau, réalisation Patrick Molinier, prise de son Julie Garraud, documentation Yaël Mandelbaum, Vanina Profisi, Virginie Vincienne et Florence D'Artois pour les Archivina.
On avait tous envie de gagner.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 6 juillet 2002.